Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonsoir à tous. Nous voici réunis dans les arènes de l'écologie. Alors, les arènes, effectivement, on avait, quand on a créé cette émission, volonté de dire que l'écologie était un combat. Eh bien, on en a eu la démonstration, on ne peut plus, cette semaine, avec, effectivement, beaucoup de retours de bâton, du backlash assez terrible à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a invité Jean-Claude Roux, qui est député écologique... député du groupe écologique et social, donc député de la 6e circonscription de Loire-Atlantique, pour nous faire un petit peu l'autopsie de cette loi du plomb, savoir comment un peu ça s'est passé. Alors naturellement, on va aborder les petits sujets avant ça. Donc oui, alors vous avez tous... Vous en êtes peut-être aperçu, mais Ben n'est pas là, malgré sa présence dans le générique. Donc on n'aura pas notre chronique sur le tour du monde intramuros en 7 jours. Non, Ben est parti à Nice pour nous préparer l'émission prochaine qui, on le verra, sera consacrée naturellement, donc je dis naturellement parce que ça va occuper toute la place médiatique ou à l'UNOC, donc la conférence internationale sur les océans qui aura lieu à Nice. Donc voilà, donc ceci étant, ça me ramène un petit peu rapidement sur ma petite chronique, celle de l'agenda de la ministre, les nouvelles de Roquechlore. Donc comme chacun sait, Roquechlore n'étant pas une marque de cassoulet, mais l'hôtel du ministère de l'écologie. Alors, cette semaine, on va dire que ça se résume à peu près à deux choses. Madame la ministre est partie depuis lundi dans le Rhône pour un déplacement consacré à la lutte contre la mode ultra éphémère. Alors effectivement, pourquoi le Rhône ? Ça, j'en sais rien. Ensuite, bon, elle discutera un petit peu avec la représentante du conseil, dont la présidente du conseil régional d'Occitanie. Bon, je pense qu'effectivement, il se passe pas mal de choses en Occitanie sur les questions d'écologie, peut-être une autoroute aussi dont il faut préciser les contours. Et puis ensuite, alors un débat peut-être intéressant. Parce qu'il y a une commission d'enquête visant à établir les freins à la réindustrialisation de la France. Alors je suis en train de me dire que si on traite le sujet de la réindustrialisation de la France en s'occupant des freins comme on s'en est occupé pour l'agriculture, eh bien dites-moi, je crois qu'on peut craindre le pire. Mais bon, ce sera un sujet qu'on verra peut-être, qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Ensuite, à partir d'aujourd'hui, bon, c'était le traditionnel... réunion de travail avec les régions, les directions régionales de l'aménagement et du logement, la DREAL, avec aussi monsieur le ministre Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire, bon, rien que de très administratif. Et puis ensuite, jeudi, un déplacement dans le Gers, je ne sais pas pourquoi, et puis dans les Pyrénées orientales, peut-être pour des histoires d'eau. Mais bon, l'agenda n'est pas très prolixe. Et puis, naturellement, à partir de vendredi, ce sera une conférence, ce sera la conférence des Nations Unies sur l'océan où Madame la ministre rejoindra Ben à Nice. Voilà. Donc, et puis, ça durera samedi, dimanche et je crois aussi à peu près toute la semaine prochaine. Donc, voilà pour ce qui était de l'agenda de la ministre. Ça va nous permettre d'engager assez vite la conversation sur les débats à l'Assemblée nationale. Alors, M. Jean-Claude Roux, qu'est-ce que vous a inspiré ce coup de force ? Nous, on parle carrément d'hold-up sur l'écologie, quoi, sur l'agriculture.
Bonsoir, oui. Pour nous, c'était même pire que ça. On a parlé de 49-3 déguisé. parce qu'on y reviendra sans doute, mais c'est vraiment ce qui s'est passé dans ce processus. Ça a été une semaine vraiment dure, la semaine dernière, dure à vivre, à encaisser, avec un certain nombre de régressions, de reculs. On va dire que les maigres acquis en matière environnementale du premier quinquennat d'Emmanuel Macron ont disparu en fumée. Et au-delà de ça, avec cette PPL du plomb, on se rend compte qu'on est vraiment rentré effectivement dans le combat du siècle. Hein. C'était dans le générique de l'émission. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète par rapport à nos collègues députés. Où d'un côté, effectivement, je pense que nous sommes plutôt conscients des enjeux. Nous faisons confiance aux scientifiques. Nous savons à peu près ce qui se présente devant nous et ça n'a pas de quoi forcément rassurer. Puis donc en face, nous avons des gens qui, effectivement, ne parlent que d'entraves, que d'obstacles, que de freins et qui font comme si, finalement, rien de tous les signaux d'alerte que nous connaissons n'existait. Et continue de foncer, d'y aller, sans réfléchir et en satisfaisant juste de vote court-termiste.
Parce que bon, ceci étant, c'est pas des caliméros, ils sont pas pleurnichés, on n'est pas aimé, etc. C'est plutôt effectivement une vision presque brutale de l'évolution de l'agriculture. On a longtemps parlé d'agribashing, mais bon, est-ce que sur le terrain vous en avez vu de l'agribashing?
C'est souvent l'argument qui est utilisé avant qu'on ait le temps d'ouvrir la bouche. C'est-à-dire une sorte de porte qui se referme, donc laissez-nous faire parce que vous ne nous comprenez pas, vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas. Donc c'est souvent une sorte de réflexe défensif et qui prime sur tout le reste. Parce que si on veut vraiment parler d'agriculture, on a identifié à peu près quels sont les soucis, puisqu'on nous a parlé de crise, même si ce n'est pas la crise pour tout le monde, hein, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais la crise agricole, c'est la crise du revenu, c'est la crise des vocations, c'est aussi le fait qu'on sait que quasiment la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, et donc qu'il y a un vrai enjeu sur le renouvellement d'une génération d'agriculteurs.
Et puis c'est pas rien, quoi.
Voilà, c'est pas rien. Et puis un certain nombre de modèles, on va dire, qui cohabitent, qui coexistent, mais avec le modèle dominant qui a mis un pied sur la tête de l'autre, en l'occurrence l'agriculture biologique, et qui veut lui faire mordre la poussière, alors que...
On est vraiment dans un combat de gladiateurs, quoi. C'est
un peu l'impression qui peut se dégager. Et là, avec des exigences qui étaient celles... C'est la PPL du plomb, si on y revient, je me suis égaré un petit peu. C'est vraiment une lettre un texte qui a été écrit par les lobbies, pour les lobbies.
Enfin, dans le texte, quel est l'article qui vous permet de l'affirmer
tous. Cela n'a aucun sens. À aucun moment, on ne parle du revenu agricole. À aucun moment, on ne parle de formation. On sortait tout juste de la loi d'orientation agricole, qui normalement devait avoir ce rôle, devait donner un cap. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et ça, on va dire que c'est le pendant supplémentaire. Là, on est sur la liste de courses de la FNSEA, clairement, puisqu'il faut se rappeler quand même que le sénateur Duplomb, avant d'être dans les fonctions qu'il occupe aujourd'hui au Sénat, était président départemental de ce syndicat. Donc, est-ce que c'est vraiment lui, en tant que parlementaire, qui est inspiré par les nécessités d'une profession? Ou est-ce que c'est simplement... La retranscription, effectivement, de demandes très très fortes de l'agro-industrie. Parce que...
Alors expliquez-nous ce cheminement, parce qu'effectivement, quand on regarde ça de loin, même nous qui devrions être bien informés, on finit par s'y perdre.
Bien sûr.
Donc on a eu une loi d'orientation agricole qui, au final, était assez décevante parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'orientation.
Et pas suffisamment de moyens, parce que notamment en matière de formation, L'objectif était de former de 30% de jeunes en plus. On n'a pas raté d'avoir ces discussions avec Marc Fesneau. Et ok, bon, où sont donc les moyens pour les enseignants? Où sont les moyens pour les établissements, etc.? Comment on va faire pour former? D'accord, il faut du monde. Mettons les moyens pour s'assurer. Bon, et c'était à budget constant. Donc déjà, ça posait un premier problème. Et il faut se rappeler aussi qu'à peu près un tiers des articles de cette fameuse loi d'orientation agricole ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Donc ça ne ressemble pas non plus à un travail vraiment approfondi, sérieux et digne des enjeux justement du monde agricole. Parce que tout le monde se drape derrière nos agriculteurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, c'est pas une agriculture, ce sont des agricultures et donc des agriculteurs. Et est-ce que ce sont vraiment leurs intérêts qui ont été pris en compte? J'en suis pas sûr. Donc effectivement, après la LOA, on a vu arriver, on avait dans le collimateur cette PPL Duplomb. On savait qu'elle avait été votée au Sénat, on savait qu'il n'y avait rien de très très bon à l'intérieur. Et que potentiellement, elle pouvait venir à l'Assemblée nationale.
Mais alors, j'ai du mal à comprendre. Donc, il y a une loi qui a été plus ou moins adoptée, plus ou moins détricotée par le Conseil constitutionnel. Mm-hmm. Puis après, il arrive donc une proposition PPL, ça veut dire quoi?
C'est une proposition de loi, en fait, c'est très simple. C'est que si la loi est d'origine gouvernementale, c'est un projet de loi. Si ça vient soit des députés ou des sénateurs, c'est une proposition de loi. Mais
d'accord.
Les propositions de loi...
Spontanées, comme ça.
Voilà. Moi, j'en ai déposé quelques-unes. Je peux en faire une demain matin, la déposer. Rien ne dit qu'elle sera examinée un jour, puisque après, vous savez que les fenêtres de tir sont relativement limitées. Et même si elle avait été votée au Sénat, il y a eu plein de PPL auparavant qui, après, traînent dans les tiroirs. Et des fois, ça peut durer un an, ça peut durer deux ans.
Poubelle,
ça... Et donc là, ça veut dire que si elle arrivait à l'Assemblée nationale, ça veut dire... que ça a été poussé. Ça veut dire qu'effectivement, c'est remonté dans un agenda qui était déjà surchargé, parce que je crois qu'on avait de quoi faire, et je ne sais pas comment on va arriver au bout là, d'ici la mi-juillet. Donc déjà, ça veut dire que le gouvernement a acté que ce texte faisait partie des priorités. Et donc ensuite, le passage d'une proposition de loi, ça commence par les commissions, une des commissions thématiques. Donc là, en l'occurrence, il y en avait deux qui ont été saisies. D'abord, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur une partie des articles, pas l'intégralité, celle qui relevait, on va dire, des enjeux liés à l'environnement. Et puis la commission des affaires économiques. Et dans ces deux commissions, parce que moi, j'ai pu participer avec mes collègues aux deux, les débats ont eu lieu.
Oui.
Alors, on n'était pas d'accord. On va dire que l'issue a été plutôt... extrêmement favorable en commission du développement durable, où là on s'est même dit qu'on avait plutôt réussi à compléter, améliorer le texte et à en retirer ce qui était néfaste. Et après, il y a eu un coup de semonce de M. Rousseau, le président de la FNSEA, qui s'est fâché tout rouge, qui a vu la tournure que prenaient les débats, encore une fois les débats démocratiques. Était là représenté tous les groupes de l'Assemblée nationale, qui a tapé du poing sur la table. Et donc, en commission...
Il n'a pas apprécié...
pas du tout, justement, que le texte évolue, ce qui est aussi le processus législatif.
Sur quoi, par exemple? Sur les grands sujets un peu...
C'est difficile de tout résumer, parce qu'il y avait 8 articles et il y a eu beaucoup de choses, mais on va dire qu'on a mis un certain nombre de garde-fous. Par exemple, on avait protégé plutôt l'ANSES, qui était largement fragilisé. Il n'y avait pas ce retour des néonicotinoïdes. On avait fait dans un article aussi additionnel à l'article 5... on avait réussi à faire voter ce qui était un petit peu en substance une proposition de loi que j'avais déposée un petit peu plus tôt, qui protégeait les captages.
D'accord, l'eau...
Voilà, donc vous voyez, on avait plutôt été sur une évolution, avec des éléments. Et en commission des affaires économiques, il y a eu un retour de bâton, mais là encore, les débats ont été possibles. Nous sommes allés jusqu'au bout de l'étude du texte, qui a été voté à la fin. Donc, il était clé en main, livré, prêt à partir en séance. Et ensuite, pour être le plus clair possible, il y a eu beaucoup d'amendements. Et donc, on a entendu parler la semaine dernière d'obstruction, d'impossibilité de procéder au débat parce que, justement, il y avait tellement de débats, c'est impossible. Le Premier ministre a même dit, vous vous rendez compte, ça aurait duré 15 jours.
D'habitude, c'est...
Je dirais, et alors, oui, voilà, c'est 15 jours, c'est
pas... On a pas vu le, pire, y compris, je sais pas, sur certaines lois, on a aussi vu dont les gens qui étaient dans l'opposition, qui sont devenus aujourd'hui dans la majorité, au moins à l'Assemblée nationale, user et abuser de ces artifices. Entre guillemets, c'est presque de bonne guerre. C'est comme ça que ça se passe dans les cours d'école.
Évidemment, enfin, moi, je ne suis pas député.
Je crois que c'était 1500 amendements. C'est pas non,
il y en avait plus que ça.
Plus que ça.
Mais oui, je ne suis pas député depuis si longtemps que ça. Ça fait 3 ans. Mais effectivement, j'ai vu bien pire. Et j'ai vu aussi parfois de l'obstruction caractérisée qui n'avait ni queue ni tête. Alors que là, ce n'était pas du tout le propos. Il y avait 3500 amendements à peu près.
Ce qui est raisonnable. C'est
beaucoup, mais si vous voulez, si on revient par exemple à l'année dernière, lorsque nous étions sur fin de vie, vous savez, quand c'était insoutenable, il y avait à peu près autant d'amendements. Et là, tout le monde se disait, c'est formidable, au moins il y a des débats démocratiques. Les uns les autres arrivent à pouvoir débattre. Tout ça est formidable. Et la semaine dernière, on a aussi voté justement le texte fin de vie. Et là, on était sur, je crois, de 2500 amendements. Ça s'est fait. Bon, toujours est-il, 3500 amendements. Déjà, il y en avait 1000 du Bloc central.
D'accord. 1000 du Bloc central, c'est, on va dire, les macronistes, pour faire simple.
Voilà, les macronistes, avec ce côté un peu cosmopolite qui fait le gouvernement.
Vous allez nous expliquer tout ça.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Thank you.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Naturellement, vous avez reconnu la petite musique d'ambiance de l'Assemblée nationale. Le bon, la brute et le truand d'Ennio Morricone. Bon, c'était un clin d'œil, hein, mais parce qu'effectivement, ça m'a l'air d'être un peu tendu quand même, l'Assemblée nationale, Jean-Claude Roux.
Ça l'a été. Donc, on en était à nos nombres d'amendements. Et lorsque nous sommes rendus compte que, d'une manière tout à fait surprenante, inédite, puisque ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Assemblée nationale, le rapporteur du texte allait déposer une motion de rejet préalable contre son propre texte. Sur le moment,
on disait que l'agriculture prenait du plomb dans l'aile, mais là, en plus, il se tire dans le pied, quoi.
Ça avait un côté un petit peu stupéfiant. Bon, on a vu tout de suite la manœuvre antidémocratique illibérale, on peut l'appeler comme on veut. C'est-à-dire que, du coup, on faisait une croix sur l'Assemblée nationale et, par contre, on consolidait la version qui n'était pas bonne du tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était sortie du Sénat. Donc, lorsque nous avons vu ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait
Mais qu'est-ce qui a pu pousser le bloc central, parce que c'est quand même le bloc central qui a la manœuvre, à adopter cette stratégie
L'irresponsabilité, le fait de se cacher, de ne pas assumer ses choix, parce qu'il y aurait eu des débats, et on va en parler tout à l'heure, parce que là, on parle de comment ça s'est passé. Je pense qu'après, on va parler un petit peu du fond et des choses.
Exactement, on a une heure.
Et du contenu qu'il y avait à l'intérieur. Je pense que ça aurait été délicat pour un certain nombre de députés, quand même, d'appuyer sur le bouton au moment du vote de tel ou tel article. Est-ce que vous voulez, oui ou non, réintroduire les néonicotinoïdes en France ?
80% de la population compte.
Et voilà, et là, donc, comme ça... écoutez, c'est pas de notre faute. C'est de la faute de l'extrême-gauche et des écologistes qui empêchent le débat, qui n'aiment pas l'agriculture et qui veulent nous punir, etc. Donc, tout de suite, nous sommes mobilisés en disant on peut pas laisser passer ça. Enfin, ils se fichent de nous, clairement. C'était un petit peu gros comme façon de faire.
Mais ceci étant, c'est quand même inédit, il faut le rappeler.
Ça ne s'était effectivement jamais produit. Mais du coup, ça s'est reproduit hier soir. Sur la 69. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique.
Hier soir, j'avais autre chose à faire.
Rebelote, remotion de rejet préalable. Donc, c'était aussi un précédent dangereux, et la preuve...
Donc, ça risque de devenir un mode de gestion et d'obstruction...
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. 49-3 déguisé, c'est une façon de mettre fin de manière brutale. Il n'y a plus de discussion. On passe, on avance, on vote.
Il n'y a pas
besoin de débat. On avance et
parce qu'après, vous allez nous expliquer la suite. Une fois, alors on fait ce rejet préalable, donc on renvoie au...
Mais avant ça, parce que là on n'est pas encore arrivé au vote, d'accord. Avant ça, c'est important de le redire, parce qu'on a entendu des mensonges éhontés dans la bouche de la ministre de l'Agriculture, aussi du Premier ministre la semaine dernière, lors de questions au gouvernement le lendemain, dès le mardi. Nous avons, au moment de la conférence des présidents avec Yael Braun-Pivet, négocié en disant « il y a deux possibilités ». Pour qu'on ait le débat. Parce que nous, on voulait avoir le débat. On voulait vraiment avoir le débat. Premièrement, un temps législatif programmé. C'est-à-dire, ça s'est déjà fait pour certains textes. Vous dites, ça commence tel jour, ça finit tel jour à telle heure. Et chaque groupe, proportionnellement, un temps de parole
gère ses amendements,
équitable. Et donc, c'est qu'il va avoir tant de pourcents. Alors, s'il veut parler, à un moment, quand ça s'arrête, c'est terminé. Ou alors, il gère effectivement. Donc ça s'est déjà fait. Moi, je me souviens plus des textes, mais ça nous arrivait de travailler comme ça. On sait qu'il y a
grosso modo, il y avait une possibilité.
Ça, c'était la première chose.
Le tempo et...
Deuxième possibilité, on a dit, OK, s'il faut, on va retirer les amendements. On va en retirer pour être sûr que ça puisse rentrer dans le cadre et que ce soit acceptable. Mais si on revient à cette histoire d'obstruction, alors ils ont pris comme témoin quelques amendements un petit peu fantaisistes qu'avaient pu faire des collègues, ça a pu arriver. En ce qui me concerne, j'avais une quarantaine d'amendements. Sur un texte comme celui-là, est-ce que c'est scandaleux ? Est-ce que c'est de l'obstruction ?
Si vous êtes 500 députés...
Mais je veux dire, quand on est député écologiste, si en moyenne, sur ce texte-là, on a, parce que c'était la moyenne pour notre groupe, 40 amendements, est-ce que c'est scandaleux ? Est-ce que ça veut simplement dire on a fait notre travail ? On a regardé dans le texte ce qui allait, ce qui n'allait pas, on a rajouté des choses, effectivement, parce qu'on se dit, c'est le moment peut-être de parler de la qualité de l'eau, d'articuler ces genres de choses. Donc, ces deux possibilités ont été rejetées. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire, il y avait moyen que ça se passe autrement. On aurait pu avoir un temps programmé. On aurait pu retirer... Moi, j'étais prêt, par exemple, comme mes collègues, s'est dit, bon, OK, bah, on va garder un amendement sur quatre. Ça nous brisait le cœur, évidemment. C'était compliqué, parce que si on les fait, c'est pas pour amuser la galerie. C'est parce que...
Et vous pouvez pas les condenser
Souvent, vous savez, quand vous faites un amendement, vous avez un amendement de repli qui est un petit peu moins disant, etc. Donc, des fois, il y en a deux ou trois qui se suivent. Il y en a un qui va être très ambitieux, l'autre qui est un peu moins, et puis l'autre qui l'est encore un petit peu moins. Donc c'est pour ça.
On ne connaît pas la cuisine, on n'a pas l'habitude.
Par exemple, je ne sais pas, vous allez dire telle mesure, on met une interdiction en 2025, et puis bah, le deuxième, vous allez dire bon, on met 2027, et puis le troisième amendement, vous allez dire on met 2030. Donc vous voyez.
C'est le même amendement, mais il est modulé, quoi.
Exactement. Donc, on était prêts à ça et ils n'ont pas voulu suivre parce qu'ils avaient peur. Moi, je le dis, je le répète, ils avaient peur du débat et ils avaient peur de devoir assumer des choix qui sont
graves.
Parce
que j'avais cru comprendre à la conférence de presse de votre groupe qu'il y avait justement dans les commissions permanentes, le bloc central n'était pas tout à fait homogène.
Pas très homogène et pas très mobilisé non plus, notamment en commission du développement durable. C'est peut-être aussi pour ça que nous avons gagné un certain... Parce qu'ils n'étaient pas très présents, mais...
Ils auraient pu de toute manière retordre le bâton dans l'autre sens en assemblée plénière.
Absolument, en séance, parce qu'un texte, il vit, il évolue, et c'est ça aussi. Alors des fois, c'est cruel, parce qu'à un moment, vous y croyez, et après, ça s'écroule, mais ça peut aller dans l'autre sens. Mais c'est un petit peu, effectivement, ce processus, commission, séance, qui fait qu'un texte, il évolue, il voit
Ça veut dire quoi articles... Ça veut dire qu'ils n'étaient pas sûrs de leur troupe.
Peut-être que certains auraient douté, auraient peut-être eu piscine ou hésité à venir ce jour-là. Et puis, encore une fois, il fallait bien avoir des éléments.
Donc aujourd'hui, c'est presque sur la science. Alors là, pour le coup, c'est clairement un déni de démocratie.
Clairement.
On risque d'adopter un texte. Alors vous nous expliquerez la mécanique
ce qui se passe
parlementaire après. On risque de voter un texte qui soit même contre la majorité informelle de l'Assemblée nationale. C'est quand même un truc de fou, quoi.
Oui, c'est effectivement, parce que là, la prochaine étape maintenant, puisqu'il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, l'étape d'après, c'est la commission mixte paritaire. Parce que normalement, quand vous avez une commission mixte paritaire, alors si elle est mixte, c'est parce que c'est Sénat-Assemblée, et paritaire parce que c'est le même nombre, donc c'est 7 et 7. Donc normalement, moi j'ai déjà participé à des CMP, vous avez deux colonnes. Vous avez la colonne Assemblée nationale, la colonne Sénat, et après, vous vous mettez d'accord pour dire s'il y a des articles, par exemple, qui sont à l'identique, celui-là, c'est bon. S'il y a des différences, il y a une discussion. Il y a une négociation, on ajuste. Et à la limite, vous allez pouvoir dire, bon, OK, nous, on vous donne le point sur celui-là, OK. Mais par contre, sur celui d'après...
Qui est dans l'équipe de l'Assemblée nationale, dans les sept représentants de l'Assemblée nationale ? C'est proportionnel à l'ensemble des groupes ?
Oui, c'est par rapport à la taille des groupes.
Est-ce qu'il y a un représentant des écologistes ?
Il n'y en aura pas, parce que nous, on n'a pas de place permanente en CMP. Par rapport à notre groupe, on y est de temps en temps par ce qu'on appelle le tourniquet, c'est-à-dire qu'une fois ça va être un écologiste, une fois ça va être pour les plus petits groupes si on veut. Donc je vais vous donner la composition.
Dans la presse, je n'ai pas vu non plus.
Ça va venir. Alors, on a la date, si ça vous intéresse, ce sera le 30 juin.
Alors qu'est-ce qui va se passer le 30 juin?
Ce sera la CMP. Elle va se dérouler le 30 juin. Et donc c'est ce jour-là où justement... Alors le gros problème, en l'occurrence, c'est qu'une CMP, ça se passe à huis clos. C'est-à-dire que là, contrairement à tous nos débats habituels qui sont filmés, qui sont retranscrits, etc., là, ça se passe dans une salle. Et donc, ils vont faire leur petite cuisine à 14 sans qu'il y ait de témoins. Et la seule chose dont on disposera, ce sera le document de fin, le document auquel ils auront abouti.
Mais il va être revoté après à l'Assemblée nationale.
Après, il y aura le vote sur le bloc. Mais en tout cas, les discussions et les débats, parce qu'il y a encore possibilité d'amender, de rajouter des choses. Et puis là, forcément, vu que c'est la version du Sénat, on ne va pas dire ça passe tel quel. Donc forcément, il va y avoir des petits ajustements. Des choses comme ça.
Mais vote à l'Assemblée nationale sur le document que va préparer la, la commission.
C'est juste un vote, c'est-à-dire on est pour ou contre la CMP, mais là il n'y a plus d'amendement, il n'y a plus de débat. D'accord. Une fois que la CMP est conclusive.
Là, pour le coup, ça revient pratiquement à un 49-3.
Après, c'est quitte ou double.
C'est oui ou non. Quoi.
Exactement.
C'est binaire.
Et donc vous me demandiez les 7. Donc voilà. Sur les 7 députés, il y aura un des Républicains, le rapporteur du texte, Julien Dive, qui a été aussi son fossoyeur. On a bien compris dans quelle logique ça s'inscrivait.
On avait trois possibilités, le bon, la brute et le truand. Bon, alors la brute, on a compris, hein, c'était notre sénateur du Forez. Peut-être.
Donc,
le truand.
Il y aura deux députés RN.
D'accord.
Vu la taille du groupe, il y aura un ou une d'ensemble pour la République, un Horizon.
Aligre FM 93.1.
Donc si vous faites le compte, vous voyez, on est déjà rendu à 5 qui potentiellement vont voter ce texte comme un seul homme ou comme une seule femme. Et il restera un socialiste et une LFI. Le LFI, c'est à peu près clair, ce sera sans aucun doute Aurélie Trouvé, puisqu'elle est présidente de la Commission des affaires économiques. Et j'ose espérer que pour EPR, ce sera Sandrine Lefeur qui est présidente de la Commission du développement durable. Donc voilà la composition. Et puis au Sénat, vous avez 3 LR, dont M. Duplomb, qui est membre. C'est pratique de la CMP. Vous aurez aussi un de l'Union centriste, mais qui est son co-rapporteur, donc qui a travaillé avec lui sur le texte. Vous aurez deux socialistes et puis un du groupe qui est l'équivalent d'Ensemble pour la République au Sénat, qui s'appelle là-bas RDPI. Donc voilà la composition. Donc vous voyez qu'en fait, ça veut dire qu'en tout, vous aurez 4 d'opposition,
contre
deux RN et puis tout le reste, grosso modo, dans le même bloc. Ouais.
Mais moi j'avais une question, c'était par rapport au fait que ce soit en huis clos. Et là on voit qu'en fait il y a énormément de personnes qui sont donc qui ont déjà écrit cette loi. Comment on peut arriver à quelque chose d'au moins objectif avec un vrai débat si en fait on voit qu'il n'y a quasiment pas d'opposition? Et en fait, c'est quelque chose, on va arriver avec une loi qui va être reproposée à l'Assemblée nationale, qui va être pratiquement écrite par les lobbies et les syndicats agricoles.
C'est effectivement le risque. Il y aura peut-être pour des amendements un peu cosmétiques pour essayer d'atténuer ou de un peu moins s'exposer aux critiques, mais parce que là, il n'y aura pas l'autre argument de que c'est la faute des écologistes et de l'extrême gauche. Il faudra aussi assumer à un moment, mais oui, moi je pense que ce sera une très très mauvaise proposition de loi qui ressortira de la CMP. Il ne faut pas s'attendre, sauf mobilisation, parce que ça, on parlera peut-être de ça à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant.
Oui, parce que là,
c'est... Sauf vraiment un renversement de situation terrible, moi je suis assez préoccupé par ce qui va ressortir de la CMP.
Mais bon, on peut pratiquement parler de loi truquée pour une agriculture dopée, quoi.
Oui, et qui ne rendra, comme je le disais, j'insiste, qui ne rendra pas service aux agriculteurs. Je pense que les problèmes qui existaient il y a un an, qui existent aujourd'hui, seront toujours les mêmes dans un an. Il y aura simplement certains groupes qui continueront de s'enrichir. Il y aura toujours plus de dépendance à l'agro-industrie, à l'agrochimie, mais sans que quoi que ce soit n'ait vraiment avancé pour les agriculteurs.
Mmh. Parce qu'à la limite, on pourrait penser que, comme on l'a dit, les agriculteurs, d'ici 10 ans, ils partent tous à la retraite.
Non, pas tous.
Il y a une grosse... Alors, je rectifie, il y a une grosse partie, du coup, des agriculteurs qui partiront à la retraite d'ici une dizaine d'années. À la limite, on pourrait se poser la question si cette loi, elle pourrait pas faciliter un renouvellement. Mais en fait, quand on se rend compte, quand on lit un peu dans les lignes, même pas, en fait, c'est juste...
Je vous disais, il n'y a rien sur le revenu, il n'y a rien sur la formation, il n'y a rien, et on continue dans ce processus, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'agriculture avant. Avant, on avait, il n'y a pas si longtemps, des exploitations, on va dire, un peu à taille humaine. On a vu que le processus était toujours l'agrandissement.
Et l'agrandissement, il se fait essentiellement parce qu'il n'y a pas de bras pour reprendre les terres. Mais on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Ensuite, c'est très simple. Ça permet aux cadors agricoles, parce que dans les villages... les choses ne sont pas uniformes, de reprendre les terres du voisin pour grossir. Et souvent, c'est un peu le Far West tout de même, oui. Dans les batailles sur la reprise des terres. C'est absolument pas bucolique.
Non, non. Et il y a le poids aussi des syndicats des syndicats dominants qui sont aussi... très impliqués dans les activités de la SAFER, qui devraient avoir un rôle beaucoup plus objectif et aidant, et qui parfois servent plutôt les intérêts de la Chambre d'agriculture, pour être clair. Et ça, c'est pas de la médisance. Moi, c'est des choses que j'ai pu observer sur le terrain et au plus près de chez moi. On voit bien que les processus entre la logique et ce qui pourrait faire l'intérêt, justement, l'installation de jeunes agriculteurs, et puis finalement, des solutions complètement... surprenante de découper une ferme en trois, de laisser une maison d'habitation inoccupée et puis de se partager ça avec des agriculteurs qui sont à plusieurs kilomètres, ça pose aucun problème.
Non mais ça c'est un vrai sujet que la répartition du foncier sujet qui est absolument pas abordé dans cette loi, même pas dans les débats. C'est vraiment c'est ce que je disais, donc c'est une loi truquée pour permettre un déni de démocratie et l'accaparement des terres. Un jour il faudrait mettre les pieds dans le plat pour parler des moyens aujourd'hui de capter le sol. L'INSEE est tout à fait à la ramasse, sa classe, c'est les plus grandes surfaces, c'est la classe 400 hectares et plus, mais au final, les unités de travail, on en est à des exploitations qui dépassent le millier, voire les 3000 hectares. Mmh. On est coupé des réalités sur ce sujet. Bon, on va envoyer la petite musique un peu plus bucolique que celle de tout à l'heure pour prendre un peu de...
Naître dans une famille de griots, c'est déjà une école. Mais une école dans laquelle on ne va pas prendre un bic, un cahier pour écrire. Non, c'est l'école de la vie.
À toi mon totem, je ne crois qu'en moi-même. Mais pour tous mes problèmes, je compte sur toi mon totem. Mais nous manquer, je mène une vie de poème. Je vais même plus dire je t'aime, j'ai pas perdu mes repères. Grâce à toi mon totem. C'est pas l'IAS et de là, pas l'héritage en dollars, pas un peu fier de ce qu'on a et tout ce que j'ai vient de toi. Fin des cours, il est tard, là j'avance sans les phares et si le totem se barre.
Suis-je le totem de moi-même? Moi-même, mon totem, mon totem, je le cache comme je l'aime. C'est lui mon emblème, car c'est moi son dilemme.
C'est moi son dilemme.
Je t'aime, mon totem, nous en sommes, nous apprenons. Ce que nous décrivons, que l'on sait, que l'on sait. Oh, mais comme je l'aime, s'il te plaît, en soi-même, la question suprême.
Moi-même, 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 moi-même.
Suis-je le totem de moi-même? Suis-je le totem de moi-même? Moi-même, moi-même, moi-même.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie après cet interbène musical de M, donc ce l'anomalie de 2, le totem. Donc, nous voilà revenus avec Jean-Claude Rouault qui nous expliquait les arcanes des débats à l'Assemblée nationale sur la loi du plomb et qui nous expliquait la méthode un petit peu. Peut-être que faire gaffe aux grands mots, mais c'est quand même des méthodes de voyous, quoi, de réussir à escamoter comme ça la démocratie, qu'on ne puisse pas éviter qu'il y ait un débat sur des sujets bien pointus. Donc on a regardé un petit peu la mécanique parlementaire, maintenant on va aborder les questions de fond. Si on avait à résumer cette loi en 3 points, bon, il y en a un qui a beaucoup fait parler, c'est la question des néonicotinoïdes, l'acétamipride, et puis il y a aussi les bassines, il y a les zones humides. On vous laisse le choix dans du menu.
Non, on va essayer de parler d'un petit peu tout. Alors ouais. Effectivement, quand on voit le processus entre le moment où on sait qu'une molécule est dangereuse et le moment où elle est interdite, parce que je me suis pas mal intéressé à la question de la qualité de l'eau, on va dire que c'est un parcours d'à peu près 15 ans. On sait que contre le gaucho et pour interdire justement les néonicotinoïdes, ça a été un combat épique. Et oui. Finalement, c'est pas si loin que ça.
On a commencé à en parler autour des années 2000, me semble-t-il.
Voilà, c'est ça. Et pour une interdiction, comme je voulais, ça correspond à peu près à l'échelle de temps. Donc c'est extrêmement long.
Alors ces apiculteurs qui ont commencé
pourquoi
ça a été
interdit parce que vraiment, là, c'est avéré. Je veux dire, on ne plaisante pas. On sait qu'il est dangereux évidemment pour les abeilles. Bon, si les agriculteurs n'ont pas compris l'intérêt des pollinisateurs, là, je me dis qu'on est dans un monde qui m'échappe un petit peu.
Bah, le blé n'a pas besoin de... n'est pas, comment dire, pollinisé à 100% avec les pollinisateurs. Je crois que c'est que 30%. Mais il y a plein d'autres cultures qui en ont besoin.
En ce qui concerne les fruits, une bonne partie des légumes, des fleurs, enfin, etc., on sait que c'est quand même essentiel et que le jour où les abeilles disparaissent, l'humanité...
Alors, il n'y a pas que les abeilles dans cette affaire.
Il n'y a pas que les abeilles.
Les pollinisateurs disparaissent.
Bien sûr.
Ça peut être dramatique.
Voilà. Donc, c'est aussi un neurotoxique. C'est un vrai problème pour le neurodéveloppement. Ça passe la barrière placentaire, c'est-à-dire ça peut toucher les bébés avant même qu'ils naissent et ensuite engendrer des problèmes pendant leur développement. Donc, on sait ça.
Oui.
Je veux dire, là, c'est scientifique, c'est avéré, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, et c'est pour ça que la France pouvait s'honorer d'avoir peut-être mis un peu de temps, mais d'avoir fini par interdire ce produit. Aujourd'hui, on nous dit, bon, il y a des pays qui continuent de l'utiliser, pourquoi nous, concurrence déloyale, etc., etc. Ce qui s'est passé après l'interdiction, donc au début des années 2020, là, c'est que les premières récoltes, finalement, n'ont pas été catastrophiques, il n'y a pas eu de baisse de rendement, comme on nous le décrit, comme du jour au lendemain, voilà, il n'y a plus ce produit-là.
Il n'y a plus de sucre dans...
Alors,
il y avait... ouais. Il n'y a plus de sucre.
Mais ce qui s'est passé, c'est surtout qu'après, il y a eu des épisodes météorologiques avec beaucoup avec sécheresse, avec épisodes de gel, épisodes de grêle, épisodes de pluie, etc. Et c'est ça qui a été le plus impactant, si vous voulez. Puis on nous dit, il n'y a pas d'alternative. Si, il y a des... Moi, j'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit, mais nous, avec du désherbage mécanique, avec des techniques, avec des moments où on a décalé un petit peu la plantaison, etc., on arrive à avoir des rendements qui sont tout à fait corrects, même satisfaisants, même meilleurs, sans les néonicotinoïdes. Et on nous a beaucoup parlé, effectivement, des noisettes. Alors ça, c'était le grand truc, les noisettes, parce que c'est une petite production de niche, c'est sympathique, on aime bien. Moi, j'ai un noisetier chez moi, c'est vrai que c'est sympa. Mais derrière, c'est plutôt les centaines de milliers d'hectares des betteraves.
Oui,
et les betteraves, est-ce que c'est ça, la souveraineté alimentaire? Parce que c'était ça, l'autre argument, c'est une blague.
Enfin, les betteraves, on exporte quand même beaucoup.
Ben voilà, c'est donc, on nous dit, ah là, vous n'aimez pas les agriculteurs et vous battez contre la souveraineté. Non, là, clairement, c'est pour produire de manière industrielle.
Mais pourquoi pas d'ailleurs, moi je ne suis pas contre l'industrie. Mais il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Et puis ça veut dire aussi qu'il y a des dizaines de filières qui vont arriver derrière en disant toc toc toc, ben, nous aussi on a besoin des néonicotinoïdes. Et si jamais on commence par là, vous savez sur la question de l'eau, là on sait qu'à partir de l'année prochaine, début 2026, on va commencer à chercher les PFAS dans l'eau. Mon collègue Nicolas Thierry a fait un travail assez remarquable sur le sujet. Et on sait qu'aujourd'hui, quasiment la moitié de l'eau potable en France est contaminée par le TFA. Le TFA, d'où ça vient principalement, d'un herbicide qui s'appelle le flufénacet.
D'accord.
Même chose, il a été reconnu avec toutes les raisons qui font que là aussi, au bout de 15 ans, on l'interdit parce que l'EFSA dit allons-y gaiement. Le premier qui va demander, qui va aller voir Annie Genevard, elle va dire, mais pas de problème. Enfin, déjà, elle a prolongé toutes les dérogations possibles. Là encore, je pense qu'on a la ministre de l'Agriculture la plus irresponsable de tous les temps.
Oui, mais parce que là, en plus, dans le schéma, la manière dont on nous présente les choses, c'est comme si les défenseurs de la santé humaine, les médecins et les écologistes, en voulaient aux désherbants, puisque c'est ça dont on parle à l'instant. Mais le schéma, il n'est pas celui-ci. Aujourd'hui, j'écrivais un article cet après-midi sur le sujet. Les désherbants, ça ne marche plus. Il n'y a plus un seul département français qui n'a pas une espèce résistante aux désherbants. Et dire ça, ça veut dire que... Et là, ce n'est pas une lubie d'écologistes. Il faudrait leur dire ça à Monsieur Duplomb et ses copains.
Ils auraient dû lire aussi la lettre qui a été adressée par un millier de médecins, de scientifiques qui, début mai, ont expliqué leurs préoccupations.
Sur les dangers sanitaires, ça c'est clair.
Donc d'abord, c'est cette proposition de loi, c'est un vrai danger pour la santé humaine.
Mais il faut aussi comprendre que la chimie, aujourd'hui, ça ne fonctionne même plus.
Non.
Donc ils sont en train de nous imposer un truc dangereux. Et qui, au final, dans 4 ans, il faut 4 ans à peu près pour que se multiplient les stocks de semences résistantes, ils soient eux-mêmes dans l'impasse. Quand ils nous parlent des impasses, c'est eux qui les créent.
Mais évidemment. Alors,
pas surtout, il y a des histoires de ravageurs, tout ça c'est compliqué. Mais sur les espèces résistantes aux herbicides, même au glyphosate, que ce soit les régras ou les vulpins, aujourd'hui, ça ne marche pas.
Non. Et puis donc, pour aller plus loin, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont en faveur des pesticides, la loi Egalim a mis en place la séparation de l'activité de vente et de conseil. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas à la fois conseiller les agriculteurs sur quels produits et puis être vendeur.
Pas être à la fois docteur et pharmacien.
Ça, c'est aboli par la proposition de loi Duplomb. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation. Donc on revient...
Vieux temps du Far West.
Donc ça, c'est un autre élément. Et puis quelque chose qui est extrêmement préoccupant, c'est la volonté de mettre sous tutelle l'ANSES. L'ANSES, même si c'est un organisme normalement indépendant. D'ailleurs, le directeur a dit lui aussi qu'il mettait sa démission dans la balance. C'est-à-dire qu'il mesure là aussi le danger. C'est-à-dire que là, il va être créé une instance intermédiaire qui va déterminer si pour protéger les cultures, est-ce que la priorité va justement
à
l'économie, à la protection des cultures ou à la santé. C'est-à-dire qu'on... Et là, finalement, l'ANSES ne pourra pas arriver en disant non, celui-là, il n'en est pas question.
Il est trop dangereux.
On arrivera au milieu, là, nous, on a besoin de protéger nos cultures parce qu'on n'a pas d'alternative. Donc, l'ANSES...
Non, on n'a pas d'alternative qu'on veut.
C'est aussi un des risques majeurs, quand même. Vous mesurez bien ce qu'il en est. Si jamais on met l'ANSES sous tutelle d'un comité intermédiaire et du ministère de l'Agriculture...
On recrée ni plus ni moins le comité permanent qui était celui de l'amiante, où on mélangeait les intérêts sanitaires avec les intérêts industriels.
Oui.
Donc ce qu'on a dénoncé il y a 20 ans, 25 ans maintenant, et même un peu plus, c'était en 97, l'interdiction de l'amiante, sur ce scandale de l'amiante qui était une collusion entre les scientifiques sanitaires et puis les intérêts industriels, on est en train de le reproduire.
Avec ce fameux conseil d'orientation pour la protection des cultures. Donc vous imaginez bien qui va le noyauter, qui va le diriger, qui va avoir son mot à dire dans ce conseil d'orientation.
Mais comment des gens, tant soit peu intelligents, peuvent proposer ce genre de fonctionnement? Mais c'est qu'on n'a plus pas de culture en France,
pas,
ou quoi,
pas de culture, pas de courage politique, pas de réflexion. C'est-à-dire que là, c'est simplement le fait de céder. Je pense que nous avons un gouvernement qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement faible et qui ne sait pas dire non, soit pire encore, c'est directement l'auxiliaire de ces lobbies qui se portent très bien. Qui
alors comment on peut résister? Parce que
c'est pas fini, hein, parce que avant la résistance. Il en reste dans la web, parce que vous l'avez évoqué, il y a aussi le fait, on sait le rôle que jouent les zones humides. On sait que, justement, avec ces temps de dérèglement climatique, elles sont d'autant plus précieuses qu'elles n'ont jamais été, parce qu'elles permettent d'éviter le ruissellement, voilà, elles captent l'eau, elles permettent de remplir les nappes phréatiques, de rendre l'eau au milieu.
Donc ils n'ont pas vu qu'il y avait des problèmes d'inondation ces dernières années.
Les mêmes, qui aujourd'hui, justement...
Ils veulent drainer pour envoyer tout à la mer.
Etc., vous les verrez dans 6 mois, enfin cet hiver, la main sur le cœur, sur les plateaux télé, devant les populations touchées par les inondations, parce que il y a un concept qui est introduit, c'est les zones humides fortement modifiées. C'est-à-dire, on sait que beaucoup de zones humides ont été cultivées, auraient dû être laissées. Bref, il y a eu du drainage qui s'est fait la plupart du temps sans la moindre autorisation. Bon, et là, on se dit, au lieu d'essayer de les restaurer, de préserver le peu qu'on en a encore... puisqu'elles ont été fortement modifiées, on va dire qu'on va les déclasser. Sur les cartes, on va dire que ce n'est plus des zones humides et maintenant circuler, il n'y a rien à voir. Là encore, on revient sur une forme d'irresponsabilité. Autre élément qu'on a aussi, il y a quand même des protections pour l'environnement, dans le droit de l'environnement, pour les ICPE.
C'est quoi un ICPE?
Là, c'est pour, les élevages industriels.
D'accord.
Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de procédures, d'enquêtes publiques, de réunions publiques, d'informations. C'est ça qu'on veut alléger. Et on veut doubler les taux. C'est-à-dire, par exemple, pour les volailles, je crois qu'on va passer de 40 000 à 85 000 volailles. Pour les porcs, on va passer de 2 000 à 3 000. C'est-à-dire, on va alléger considérablement tout le processus d'enquête, tous les processus qui permet de s'installer. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait loin de la Bretagne. Les algues vertes, les algues bleues, les cyanobactéries, on sait un petit peu, généralement, même si ce n'est pas les mêmes causes, mais on a une petite idée quand même des processus qui nous font arriver là. Et là...
On veut faire des usines sans les contraintes de l'industrie. Quoi.
C'est ça, on va faciliter la tâche. Et puis, on pourrait continuer sur l'encadrement de l'OFB, qu'on aimerait bien, enfin, on sait ce qu'il en est, ce qui a déjà été dit. Certains aimeraient bien même s'en débarrasser purement et simplement. Qu'est-ce que j'ai pu oublier encore? Il y a 8 articles. Donc, vous voyez, là, ça donne quand même un petit aperçu des enjeux et des risques que nous courons avec cette proposition de loi. C'est tout sauf anodin. Et puis, on a oublié les fameuses méga-bassines, évidemment, puisque il y a eu, on ne va pas reparler de Sainte-Soline ou d'ailleurs, des oppositions, etc. Là encore, on se dit, les gens n'en veulent pas, on va essayer de faciliter, d'asseoir vraiment cet accaparement de l'eau. Alors, je suis venu avec quelques chiffres. En France, il y a 7% de la surface agricole utile qui est irriguée. Donc, quand on nous dit qu'on ne peut pas faire d'agriculture sans irrigation, comment font les 93% qui n'irriguent pas? Soit il faut de l'eau, on en a besoin. Mais là-dessus, 34% des cultures qui sont irriguées vont à l'export. Donc encore une fois, la souveraineté alimentaire...
À la Bodo.
Là-dessus, 60%...
On exporte 50% de la récolte, de la moisson.
60%, c'est du maïs. Souveraineté alimentaire, par des biens un petit peu indirects. Et puis finalement, il n'y a que 26% qui vont pour l'alimentation humaine. Et on sait aussi que ces méga-bassines sont payées par l'État, très largement, sont très très largement subventionnés à hauteur de 70-80%.
Est-ce que c'est pas un retour
et que finalement il n'y a qu'un tout petit pourcentage d'agriculteurs? Si encore y est, tous les agriculteurs vont en profiter. Non,
voilà,
on sait
ça.
C'est pour ça qu'on parle d'accaparement. C'est parce que là finalement c'est un petit nombre généralement très bien organisé, très puissant, qui va aller chercher cette ressource. Et moi je ne peux pas entendre dire, vous savez mieux que moi, que l'eau est perdue l'hiver. Jamais une goutte d'eau n'est perdue sur Terre. Non, on ne peut pas dire que l'eau est perdue, ou c'est méconnaître justement le cycle de l'eau.
Il y a des
zones humides.
Maël, toi qui sors de tes cours de géo.
C'est ça, en fait. C'est que là, du coup, on touche sur ce que je connais. Vous dites que c'est un cycle de l'eau, alors qu'en fait, l'eau, quand on parle de méga bassine, quand on dit que bah on perd l'eau de l'hiver, bah en fait c'est parce qu'on l'imagine comme un produit fini.
Absolument.
Et on voit pas, enfin à chaque fois que je lis une proposition de loi ou parce que le sujet des méga bassines, dans un certain sens, oui, il faut au bout d'un moment stocker de l'eau qui s'échappe, entre guillemets s'échappe, mais il y a jamais dans la prise en compte de ce stockage de l'eau que c'est un cycle et qu'en fait c'est pas une, que ce n'est pas un stock fini. Et donc en fait comment ces personnes-là de ce bord au niveau de l'Assemblée nationale ne comprennent pas ça?
Ce sont des solutions court-termistes et simplistes. On dit il y a besoin d'eau, il suffit qu'il y en ait trois qui aient dit ben, on perd l'eau en hiver. C'est quand même plus malin. Parce qu'il y a un argument, et ça c'est assez redoutable aussi depuis quelques semaines qui revient quotidiennement. Et c'est ce que, avec certains collègues, nous appelons une forme de trumpisation de la politique française, c'est le bon sens.
Oui, mais ça c'est une arnaque. Hein.
Non, mais c'est vraiment ça qu'on entend. C'est-à-dire, on va vous dire, on va vous opposer. Non, mais attendez,
C'est une question de bon sens.
C'est bon sens. Regardez, l'eau, on voit bien, elle est plus là, elle s'en va. Donc si on la garde en hiver, bah, on va s'en servir après, et c'est du bon sens. Donc c'est malheureusement, ça s'arrête là.
Eh bien, on ne va pas avoir réussi à aller jusqu'au bout et de voir comment on peut monter la résistance.
Bah, il va falloir se mobiliser en tout cas.
Il va falloir se mobiliser, à un moment ou à un autre, trouver les moyens. C'est vrai que c'est inédit. Parce qu'effectivement, l'heure tourne. Alors, on va revenir sur ces questions d'agriculture dans l'émission, dans les arènes de l'écologie. Peut-être que vous pourrez poser une question à notre invité qui sera Olivier Mora le 25 juin, qui nous présente. Donc, Olivier Mora, c'est un chercheur de l'INRAE qui vient de publier un livre sur une agriculture sans pesticides à l'horizon 2050. Donc effectivement, il s'agit de mettre en musique un projet alternatif au modèle actuel qui est l'agriculture compétitive et dopée par la chimie. Mais effectivement, il nous expliquera comme quoi tout ça c'est possible. Et c'est vrai que peut-être que vous pourriez lui poser une question surprise, comme on met ça en place dans la rubrique. Mais il faut que je fasse vite parce qu'il faut que je remercie Renaud et Armand qui ont effectivement maîtrisé cette émission et nous ont permis de diffuser toutes ces idées et puis aussi de relever ce scandale, ce déni de démocratie assez inédit, quoi. Et donc on va avoir une loi truquée pour une agriculture dopée. Bon, bah écoutez les amis, bonne semaine de écologique et puis à la semaine prochaine. Ce sera donc les océans avec Ben qui sera directement à Nice. Et puis donc on retrouvera la question agricole, comme je viens de vous le dire, le 25 juin. Eh bien, bonne semaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.